d'Israël, et qu'il a aussi pour nous, bien, Israël n'a pas répondu à son âme. Ah, il y a eu des moments de joie, et voyez-vous, quand le Seigneur nous a délivrés et que nous l'avons reçu comme sauveur, il y a eu de la joie. C'est ce qui est appelé à quatre reprises dans Jérémie. Il y a eu le chant des fiancés, et des fiancés. Il y avait de la joie dans le ciel, disions-nous, à ce moment-là, quand le pécheur se repent. Puis il y avait aussi de la joie dans nos cœurs. Mais, étant fiancés, c'est pour le suivre que nous avons dit oui au Seigneur. Alors, en revenant à Marie, la jeune Vierge d'Israël, dont nous avons parlé hier soir, cette jeune Vierge qu'avait annoncé Ésaïe au chapitre 7, verset 14, qui se trouverait enceinte, eh bien, elle n'était pas enceinte des œuvres de Joseph, mais par le Saint-Esprit, qui est la troisième personne de la Trinité, Saint-Esprit avec lequel nous devons avoir affaire. Et quand Marie, je reviens là-dessus, avait dit son oui à l'ange Gabriel, au fond, qu'est-ce qu'elle a accepté là? Elle acceptait de mourir. Et quand nous acceptons Jésus, nous acceptons la fin de notre vie. C'est ce que nous devons bien comprendre. Marie savait très bien que si son fiancé ne la croyait pas, mettait en doute ce qui s'était passé en elle, et voulait expliquer ça d'une façon raisonnable, eh bien, qu'est-ce qu'il attendait? La mort. Et quand on accepte Jésus, et c'est là que je me dresse quelquefois contre une certaine prédication qui vous dit, si vous acceptez Jésus, tout sera facile, tout ira bien, etc. Et puis, vous n'irez pas en enfer, vous serez... J'en ai la nausée de ce salut-là. Juste être sauvé pour pas aller en enfer, puis vous, on dirait en enfer. Parce que vous n'avez pas compris comme moi. Et qu'est-ce que c'est accepter Jésus? C'est pas signer quelque chose. Et alors on voit des gens qui prétendent s'être convertis et qui rien dans leur vie n'est transformé. Alors qu'est-ce qu'ils ont accepté? Un engagement charnel, et nous savons très bien que quand nous prenons des engagements, ça tient peu de temps, et après, on a transgressé. C'est pas ça. C'est recevoir quelqu'un, et pas quelqu'un qui entre et qui sort. Mais quand on a ouvert la porte et qu'il est entré, eh bien, voilà, il reste avec nous. Mais comme je l'ai dit souvent, quand le Seigneur frappe à la porte, qui est-ce qui doit ouvrir? C'est nous. La clé, elle est à l'intérieur. Mais beaucoup d'évangélistes, ils ont fait des passe-partout. Et de l'extérieur, ils viennent, ils vous ouvrent, et puis bon, alors, on fait entrer le Seigneur, avec toutes sortes de en le poussant encore, c'est possible. Et puis alors, bon, il est là, mais la porte, elle n'est pas fermée, alors on ressort, on entre, on sort. Il n'y a jamais une intimité réelle avec le Seigneur. Alors que la grâce de Dieu nous soit donnée pour que nous puissions revenir à la simplicité du Christ. Quand est-ce que vous avez vu Jésus faire de la propagande pour la conversion? Montrez-moi un Jésus et qu'il fait une propagande évangélique. C'est sa vie qui prêche. Mais quand on lui dit, Seigneur, je veux te suivre, tu veux me suivre? Il les retient. Et il leur dit, si tu veux me suivre, prends ta croix, et suis-moi. Ça veut dire, tu vas aller au-devant de la mort. Et on pourrait multiplier les exemples. Alors je voudrais que vous retrouviez vraiment l'enseignement de Jésus. Parce qu'aujourd'hui, Satan est là pour vous dire, mais moi j'ai rien contre les réunions d'évangélisation. Et puis, si vous donnez de l'argent pour les réunions d'évangélisation, on vous permet de déduire ça de vos impôts. C'est quand même encore avantageux. Alors on fait quelque chose pour le Seigneur, et puis on déduit ça de ses impôts. Donc on vous facilite ça, et le diable n'est pas du tout con. Pourvu que ce ne soit pas une consécration totale de votre vie. Or, se convertir, c'est accepter d'être fiancé à quelqu'un, d'être fiancé au Christ. Et Marie, quand elle a dit son oui au Seigneur, elle a accepté les conséquences. Joseph ne pouvait pas la croire. Mais Joseph lui-même a été visité, parce que cela nous vous l'affirmons, après bien des épreuves. Lorsque Dieu nous éprouve, quand on obéit à sa parole, il se charge d'intervenir pour nous donner une délivrance proportionnée à la profondeur de notre détresse. Croyez-le bien. Le Seigneur nous éprouve. Je me souviens, avant mes 18 ans, quand j'étais à l'hôpital, si malade, une infirmière était venue vers moi, puis elle m'avait dit, tu sais, ne t'inquiète pas, j'ai un verset pour toi. J'ai pas demandé de quelle église elle faisait partie. Elle avait une parole de Dieu pour moi. Et qu'est-ce qu'elle me disait? Chapitre 10 de la première épître aux Corinthiens. Aucune épreuve, verset 13, ne vous est survenue qui n'ait été humaine. C'est-à-dire, jusqu'à présent, nous avons été éprouvés d'une façon humaine. Si nos épreuves avaient été surhumaines, qu'est-ce qu'il y aurait? On ne serait plus là. Donc nous avons déjà la preuve qu'aucune de nos épreuves a été surhumaine. Et il est ajouté, et Dieu est fidèle, qui ne permettra pas que vous soyez tentés, c'est le même mot, ou éprouvés, au-delà de vos forces, mais avec l'épreuve ou la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. C'est quelque chose de merveilleux. Vous avez l'épreuve? Au lieu de vous lamenter, vous vous dites, mais pourquoi est-ce que ça m'arrive? C'est pas ça qui est important. C'est dire, Seigneur, comment vas-tu t'y prendre pour m'en sortir? Alors vous avez tout de suite l'espérance. Vous vivez dans l'espérance de la délivrance, n'est-ce pas? J'ai pas besoin de savoir pourquoi il m'éprouve, parce que je sais que c'est peut-être nécessaire dans ses voies. Mais je ne me décourage pas et je me dis, qu'est-ce que tu me réserves? Comme délivrance. C'est ça la foi. On s'empare de ses promesses. Et la délivrance que Dieu réservait à Marie, ce n'est pas elle qui l'a donnée par sa force de conviction en essayant d'influencer Joseph. Et de lui dire, mais tu vas pas me renvoyer quand même. Non, c'est pas ça. Elle y est pour rien. Elle a témoigné. Et puis maintenant, elle laisse au Seigneur. Et c'est l'ange. L'ange qui s'est déplacé pour elle, se déplacera pour Joseph. C'est ça qui est beau. C'est l'intervention de Dieu lui-même. Et vous avez eu cela, on l'a lu dans Matthieu. Alors, Joseph, comme Marie, sa fiancée, accepte de faire ce que Dieu lui demande. Il l'a pris chez lui. Il l'a pris chez lui. Comme, qui est-ce qui a aussi pris Marie chez lui? Jean. Et vous savez, un jour j'étais à Jérusalem, puis on m'avait demandé de prêcher justement au Golgotha. Il y avait toute une foule rassemblée. Et j'ai prêché sur les sept paroles de la croix, là. Et j'ai été frappé, vraiment, quand il a dit, « Femme, voilà ton fils, fils, voilà ta mère. » Et depuis ce jour, Jean l'a pris chez lui. Puis le Seigneur m'a demandé, « Mais, et toi, et vous, les protestants, est-ce que vous l'avez pris chez vous ?» On parle, pour ainsi dire, jamais de Marie, on la met de côté, on parle de toutes les femmes de la Bible, sauf de Marie. C'est comme si on n'avait pas osé la prendre chez nous. Et alors, on ne connaît pas les grandes leçons de Marie. Tout ce qu'elle nous enseigne, parce que c'est quand même la mère de notre Seigneur, que toutes les générations diront bienheureux. Cette femme qui était remplie de la parole, et qui a pu contrôler, contrairement à Ève, que tout ce que la parole disait s'accomplissait. Tandis que Ève, elle a mis en doute la parole du Seigneur. Et c'est là le contraste qu'il y a entre Ève et Marie. Et si Ève a introduit par son mari le péché dans le monde, puisque le péché est compté à Adam et non pas à Ève, Marie nous a donné par son oui le Sauveur. Et nous aimons à le reconnaître. Et vous savez, quand vous parlez à des catholiques, c'est un grand pas. Quand enfin, ils commencent à comprendre qu'on n'est pas contre Marie et qu'on a de l'amour pour la mère de notre Seigneur, comme pour Abraham, comme pour Isaac, comme pour Jacob. Alors, jusqu'à maintenant, on a lu un peu tous les versets qui parlaient des fiançailles. Donc, nous pouvons entrer dans le vif de notre thème, fiancé au Christ. Et je crois que vous l'avez compris, telle est la condition dans laquelle une âme qui accepte Jésus comme son sauveur se trouve engagée. La conversion, c'est le jour des fiançailles, le jour de la joie du cœur de notre fiancé. Nous lui avons donné à ce moment-là une grande joie quand nous avons reconnu notre péché et que nous avons compris que c'était pour nos péchés qu'il était mort et que malgré toutes nos fautes, il nous demandait en quelque sorte notre main. Alors, notre destinée est fixée. Mais le Seigneur, à qui nous sommes fiancés, se trouve dans le ciel. Il nous prépare une place auprès de son Père. Et si nous sommes déjà fiancés à lui, qu'est-ce qu'il est, ce Père? Déjà pour nous. Il est déjà notre Père. Et nous pouvons connaître Dieu comme notre Père. On n'est pas encore dans sa maison, mais comme une fiancée qui est encore chez ses parents pense à son futur homme, eh bien, ce n'est pas difficile pour nous de penser aux choses qui sont en. Parce que notre destinée, c'est une destinée céleste. Nous avons maintenant une destinée céleste. Alors il est dit, si vous avez été ressuscité avec Christ, pensez aux choses qui sont en haut. Affectionnez-vous aux choses qui sont en haut. Là où est notre trésor, là aussi est notre cœur. Mais votre trésor, où est-il? Dans le monde? Je comprends que vous soyez malheureux. Mais si votre trésor est dans le ciel, eh bien, vous connaissez la vraie joie. Car je pense que vous avez bien compris que le salut ne nous a pas été donné simplement pour que nous n'allions pas en enfer, mais pour que sur la terre, nous puissions vivre de ce salut. Et ce salut, c'est qui? C'est Jésus. Le salut, c'est Jésus. Être sauvé, c'est être en Jésus, et c'est avoir Jésus en nous le Fils bien-aimé du Père. Celui qui habite dans le sein du Père, il habite maintenant dans nos cœurs. De sorte que c'est uniquement par la personne de Jésus que nous pouvons vivre à la gloire de Dieu. En résistant aux sollicitations du monde. Parce que depuis notre conversion, nous sommes encore dans le monde, mais nous ne sommes plus du monde. Si réellement nous sommes nés de nouveau, nous sommes morts à cette vie passée, et nous connaissons par le Saint-Esprit une vie nouvelle, qui nous donne des goûts nouveaux. Nous avons une nouvelle nature. Autrefois, ma vieille nature prenait plaisir à tout ce que le monde offrait. On aimait ces choses. Mais maintenant que nous avons une nouvelle nature, qui est la nature de Jésus, qu'est-ce que Jésus aimait? Il aimait son Père. De qui parlait-il? De son Père. Et que qui faisait-il connaître? Son Père. La volonté de son Père. C'était ce qui lui était agréable, même en allant jusqu'à la mort. Et voyez-vous, si vous êtes des gens qui croyez à l'inspiration de la Bible, l'épître de Jacques nous dit clairement que si nous aimons le monde et les convoitises qui sont dans le monde, eh bien, qu'est-ce que nous sommes comme chrétiens? On dit, mais j'ai accepté Jésus. Mais qu'est-ce qui remplit mon cœur? Qu'est-ce qui remplit le cœur de nos jeunes? Nous n'avons pas su donner encore à nos jeunes ce qui pouvait les satisfaire. Et on s'inspire de tout ce qui est dans le monde. Tiens, ça réussit dans le monde. Les jeunes aiment ça dans le monde. Tiens, nous, puisque nous voulons aussi des églises pleines, nous voulons amener ce que le monde emploie dans nos églises. Et c'est ainsi que nous mondanisons nos églises. Et il y a bientôt plus de différence. Vous direz que je suis sévère, non, je souffre. Parce que quand je vois que les conducteurs spirituels sont prêts à tout admettre, eh bien, je crains pour eux. Parce que le Seigneur en parle. Comment la parole de Dieu appelle l'amour du monde? Chapitre 4 de Jacques. D'où viennent les luttes? D'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux, car quand on n'aime pas son frère, qu'est-ce qu'on est? On est un meurtrier. Vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes. Ça ne vient pas du Saint-Esprit, les querelles et les luttes. Or, dans bien des milieux où on parle beaucoup du Saint-Esprit, on ne fait que se diviser. Et ensuite, de se haïr. Ou de se faire concurrence. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Comment devons-nous demander comme Jésus demandait? Père, je sais que tu m'exauces toujours. Vous rendez-vous compte de ce qu'il a dit là au cimetière de Lazare? Si Dieu ne lui avait pas répondu, il dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Il y a un mort depuis 4 jours, qui est déjà en état de décomposition. Lazare, sort dehors. Et le mort sort. Adultère que vous êtes, voyez, un christianisme qui est devenu adultère. Adultère que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu, celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemis de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en vous. C'est la même chose que Paul écrit aux Philippiens quand il leur dit qu'il les chérit. Et puis, quand il parle de sa jalousie, je suis jaloux pour vous d'une jalousie de Dieu. C'est la même jalousie, parce qu'il voudrait que ceux qui se disent disciples du Seigneur le soient en vérité. Et il ajoute, Jacques, il apporte au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi il est dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Bien, si nous gardons l'humilité qu'avait Jésus, nous serons des bénis. Mais souvenez-vous, celui qui veut être ami du monde se constitue ennemi de Dieu. Et dans l'épître de Jean, Jean dit ceci, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Mais immédiatement, vous me direz, mais alors comment ça se fait que Dieu a dit qu'il a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais je pense que vous savez que le même mot peut avoir différentes significations. Or, le mot monde, comme du reste le mot chair et tant d'autres, ont plusieurs significations. Le mot monde a un sens cosmologique. C'est la création, c'est l'univers. Alors, cette création, ces œuvres qui ont été faites, comme nous le verrons, par le Seigneur lui-même, c'est lui qui a créé toutes choses, dans les cieux et sur la terre, eh bien, ce monde, on peut l'admirer. Ce monde, on a un certain amour pour lui, mais on n'est pas arrêté par ces choses merveilleuses du monde, parce que ça, ça deviendrait du paganisme, d'adorer la créature, d'adorer les œuvres de Dieu. Nous n'avons pas à adorer les œuvres de Dieu, nous avons à adorer l'auteur de ces œuvres. C'est là la grande différence. Mais le monde, eh bien, nous pouvons en jouir. Parce que Dieu a créé toutes choses belles et bonnes en son temps. C'est le péché qui a tout gâté. Mais donc, il y a le monde au sens cosmologique. On n'a pas à le renier. Nous sommes dans ce monde-là. C'est la scène sur laquelle nous avons à témoigner, à évoluer. Le mot monde désigne aussi l'humanité. Le monde, c'est l'humanité. Dieu a tant aimé le monde, ça, c'est le sens de l'humanité. Il a aimé tous les hommes. Mais il a aimé aussi les animaux. Toutes ses œuvres le célèbrent. Le monde, dans le sens cosmologique, n'a pas renié son créateur. C'est pourquoi bien souvent, les prophètes inspirés disaient qu'ils prenaient à témoin les cieux et la terre. Ésaïe en particulier, Jérémie, nous prenons à témoin les cieux et la terre. Dieu prend à témoin les cieux et la terre parce que ses œuvres ne l'ont pas renié. Le bœuf même connaît son possesseur, l'âne, la crèche de son maître. Mais nous, Israël, ne me connaît pas. Et pourtant, Dieu s'était révélé à Israël, et Israël ne s'est pas souvenu des bienfaits de Dieu, comme du reste Adam et Ève ne se sont pas souvenus des bienfaits de leur Créateur, et ils ont écouté la voix du séducteur. Ève a été séduite, et Adam, séduit par Ève, a introduit le péché dans le monde, en écoutant la voix de Satan. Et aujourd'hui, nous voyons que l'Écriture manifeste que même ceux qui croient risquent d'être séduits par Satan comme Ève l'a été autrefois. Alors, soyons sur nos gardes. Ne pensons pas, oh Ève, elle n'aurait pas dû. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous faisons mieux qu'elle quand nous nous laissons séduire? Il y a un autre Jésus, il y a un autre esprit, il y a un autre évangile. Alors, si je reviens à l'Esprit de Dieu, si je reviens à l'Évangile véritable, si je reviens vraiment à la parole, voilà que je comprends qu'aujourd'hui, je dois glorifier Dieu. Je dois savoir dire non à certaines choses parce que j'ai dit oui au Seigneur. Alors ça influence le choix d'un métier. Ça influence le choix d'une femme ou d'un mari. Si vous avez dit oui au Seigneur, vous allez suivre sa parole. Et alors, au lieu de me dire, mais moi, j'ai ces capacités-là, je veux, et puis j'ai cette ambition-là, vous voulez avoir un grand nom dans le monde? C'est votre affaire. Vous voulez briller dans le monde, vous voulez qu'on parle de vous dans le monde. C'est que vous ne vous souvenez plus des paroles du Seigneur. Ils ont aimé la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Seigneur, je voudrais avoir une position où je puisse te glorifier. C'est pas simplement moi qui choisis mon métier, ma vocation. Bien sûr que le Seigneur peut nous guider d'une façon merveilleuse et aussi selon nos capacités, mais les capacités, croyez-le, c'est lui qui les donne et pas nécessairement dans une école biblique. Mais c'est à l'école de Jésus, à l'école de la vie, que l'on peut grandir. Et c'est pourquoi l'Écriture dit dans les familles, ne recherchez pas ce qui est élevé, mais associez-vous aux choses humbles. Parce que le but de notre vie, est-ce que c'est de gagner de l'argent? Est-ce que c'est de devenir riche? On dirait qu'on n'a pas lu la Bible. Malheur à vous, riches. Vos richesses sont pourries. Qu'est-ce que Dieu va nous donner? Qu'est-ce que Dieu nous a promis? Le nécessaire. Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Nourris-moi du pain qui m'est nécessaire. C'est cela l'équilibre. Et puis donne-moi dans ma vocation, dans mon occupation, de pouvoir te glorifier. Et voyez-vous, quand il y a eu en Israël des œuvres d'art à accomplir, eh bien, le Seigneur a qualifié des hommes par son esprit pour accomplir une œuvre matérielle. Il faut aussi le Saint-Esprit. Et si vous vous laissez conduire par l'Esprit, bien, vous ferez beaucoup de progrès, même dans votre métier. C'est le Seigneur lui-même qui, en plein désert, dit qu'il s'est choisi des hommes. Chapitre 31 de l'Exode. L'Éternel parla à Moïse et lui dit, « Sache que j'ai choisi Bétsaël, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'esprit de Dieu, de sagesse et d'intelligence, de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Moi, je trouve que ça, c'est merveilleux. Il faut autant de Saint-Esprit pour accomplir une œuvre matérielle que pour accomplir, que pour faire une prédication. De sagesse et d'intelligence, de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Moi, je trouve que ça, c'est merveilleux. Il faut autant de Saint-Esprit pour accomplir une œuvre matérielle que pour accomplir, que pour faire une prédication. Ça, j'en suis absolument convaincu. Et quand on rencontre un chrétien qui a un métier et qui le fait tellement bien, on est profondément édifié. Je pense que Josaphat, tu l'a connu, quand on avait ici Monsieur Lecor. Qu'est-ce qu'il était? Menuisier. Où? À Canada Village. Et il venait ici pour nous donner des leçons dans les travaux manuels que nous faisions ici, pour montrer comment on décape, comment on fait certaines choses. Et on était toujours édifié. Et quand les gens passaient, ils voyaient tout de suite que c'était un chrétien. Puis on lui posait des questions, puis il pouvait répondre, toujours prêt à répondre avec douceur et crainte à quiconque lui demandait l'espérance qui était en lui. C'est pas seulement dans l'Exode. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler de l'or, de l'argent, de l'érudit. Ça va loin. Je l'ai rendu capable. Mais voilà, est-ce que c'est moi qui suis capable? Est-ce que je m'attribue ces dons? Ou bien est-ce que c'est lui qui me les a donnés? Tout doit revenir au Seigneur, tout doit revenir à lui. Et si je vous ai lu le chapitre 16 d'Ézéchiel, qui a passablement bouleversé certains, c'est qu'on voit que Dieu a tout fait pour la ville de Jérusalem, mais qu'on peut aussi identifier à une âme. Il l'a trouvée nue, il l'a trouvée dépouillée, aucun soin ne lui avait été donné. Son nombril, comme il l'était dit, n'avait pas même été coupé, elle gisait là dans son sang. Et c'est Dieu qui, passant par là, a tout accompli pour elle. Et une fois qu'elle est devenue parfaite en beauté, elle a oublié. Elle s'est attribuée sa beauté, et c'est ça le péché. C'est de se donner la gloire au lieu de donner la gloire au Seigneur. Que nous puissions toujours donner toute gloire au Seigneur. Et puis, ne pas parler de nous, mais parler surtout de lui. J'ai parlé du métier, mais j'ai parlé maintenant d'une compagne, selon l'Écriture. C'est le Seigneur qui peut nous la donner. Et pourquoi est-ce que nous ne la demanderions pas? Je crois l'avoir dit quelquefois, j'ai souvent enseigné dans des facultés de théologie aussi. Et un jour, plusieurs étudiants en théologie, c'était à Aix-en-Provence, ils voulaient se marier. Et un en particulier m'a dit, j'ai écrit 5 lettres à 4 femmes différentes pour être à peu près sûr d'en avoir une. Il aurait mieux fait communiquer directement avec le frère qui connaissait celle qui pouvait lui correspondre. Parce que si moi je choisis, ça a l'air de bien aller aujourd'hui. Mais dans 2 ans, est-ce que ça me correspondra encore? Dans 5 ans, est-ce que ça correspondra encore? Car on n'essaye pas de se marier, c'est pour la vie, selon l'Écriture. On peut avoir toute espèce de manquements, mais on les a confessés. On peut en avoir encore, mais on les confesse, on ne garde pas ses fardeaux. Et on se souvient toujours que tout ce qu'a été Jésus, il l'a été pour nous. Et il est là devant Dieu, il nous représente devant Dieu. quand Dieu vous regarde, il vous voit dans le ciel déjà, dans les perfections de son Fils. Si vous l'avez vraiment accepté, attribuez-vous tout ce qui se trouve en Jésus, mais ça on n'ose pas le faire. Et c'est là notre faiblesse, notre déficience, notre incrédulité, notre manque de foi. Ce qu'est Jésus, c'est ce que vous êtes. Comprenez-vous? Ce qu'est le Seigneur Jésus, c'est ce que vous êtes. Alors, au lieu de vous regarder vous, eh bien, regardez-le lui. Si vous vouliez vous regarder vous, regardez la croix. Et qu'est-ce que vous voyez à la croix? Jésus portant vos péchés, souliers de sang, couronné d'épines, c'est tout ce que nous sommes. Mais il est mort à cela. Et nous avons été ensevelis. Le baptême est le témoignage qu'à cette vie que nous avions avant, nous avons renoncé et que nous avons maintenant une vie nouvelle. Alors, Jésus nous a enseigné, on est à son école, et c'est pas lui l'auteur des mariages malheureux. Vous pouvez être sûr de cela. Mais évidemment, dans la vie conjugale, on doit se supporter, on doit s'aimer, mais on sait ce qu'est l'amour. C'est l'amour qui donne et qui se donne. C'est un amour qui supporte tout, qui croit tout, qui espère tout, qui endure tout, qui ne périt jamais. Alors, pour vous montrer maintenant ce que dit l'Écriture au sujet de ce qui s'est passé en Israël, nous allons lire, et ce sera un texte dans le chapitre 2 de Jérémie et un autre dans le chapitre 13, et vous comprendrez ce qui se passe. Dieu parle à Israël. La parole de l'Éternel vint à moi en disant, « Va, crie aux oreilles de Jérusalem, disant, ainsi dit l'Éternel, je me souviens de toi, de la grâce de ta jeunesse, de l'amour de tes fiançailles. » C'est une âme, donc, qui s'est fiancée jeune avec le Seigneur. C'était Israël. Quand tu marchais après moi dans le désert, dans un pays non semé, et qu'est-ce que Dieu faisait pour ce peuple? Il leur donnait la manne, il leur donnait l'eau. Israël était saint à l'Éternel, les prémices de ses fruits. Et ils avaient chanté après la délivrance de la mer Rouge. Ils avaient dansé, ils avaient chanté. Louez le Seigneur. Ils étaient dans la joie des fiançailles. Et le Seigneur les protégeait. Tous ceux qui le dévorent sont coupables. Il viendra sur eux du mal, dit l'Éternel. C'était la protection qu'Israël avait quand il aimait le Seigneur. Je vais reprendre second parce que je crois que vous disiez second. Alors, verset 4. Écoutez la parole de l'Éternel, maison de Jacob, et vous toutes les familles de la maison d'Israël. Ainsi parle l'Éternel. Quelle iniquité vos pères ont-ils trouvé en moi pour s'éloigner de moi? Israël s'est éloigné du Seigneur. Pour aller après des choses de néant. Un être humain que néant. Et c'est ce qui arrive aussi aujourd'hui dans l'Église. On court après des choses de néant qui ne sont et nous ne sommes plus que néant. Ils n'ont pas dit où est l'Éternel, qui nous a fait monter du pays d'Égypte, qui nous a conduit dans le désert, dans une terre aride et pleine de fosses, dans une terre où règne la sécheresse et l'ombre de la mort, dans une terre par où personne ne passe, et c'est le Seigneur qui suit dans le chemin. Que de fois vous dites, mais comment est-ce que je vais passer? Dites-vous, je suis dans une terre où personne ne passe, mais le Seigneur a un chemin. Il a un chemin pour moi. Faut pas que ça soit seulement des cantiques. Oui, je sais que le Seigneur a un chemin pour moi. Mais c'est vrai, ça. Il a un chemin pour vous. Verset 7. Je vous ai fait venir dans un pays semblable à un verger pour que vous mangiez les fruits et les meilleures productions. Mais vous êtes venus et vous avez souillé mon pays et vous avez fait de mon héritage une abomination. Les sacrificateurs n'ont pas dit où est l'Éternel. Les dépositaires de la loi, vous voyez les responsables, ne m'ont pas connu. Et j'ai lu avant-hier un article écrit par un prêtre qui dit « Au Québec, les gens dits chrétiens ne connaissent pas Jésus. Bon, » c'est toi lui qui le dit. On ne connaît pas Jésus. Mais aussi, dans les milieux évangéliques aussi, on ne connaît pas Jésus toujours, comme on devrait le connaître. Les pasteurs m'ont été infidèles. Quand on lit le petit papier que je vous ai montré, là, qui nous montre ce que pensent les théologiens anglicans, bon, il est par terre, hein, vous savez. Il est où il doit être. Le concubinage n'est plus empêché. Les prophètes ont prophétisé par Baal, c'est les faux dieux, et sont allés après ceux qui sont d'aucun secours. On ne trouve plus le secours, pourtant le secours, on sait où il est. C'est pourquoi je veux encore contester avec vous, dit l'Éternel, je veux contester avec les enfants de vos enfants. Et vous savez, c'est un camp de famille. Alors il y a les enfants de vos enfants. Verset 10. Passez aux îles de Kittim, c'est Chypre, et regardez. Envoyez à Kedar, observez bien. Et regardez s'il n'y a rien de semblable. Y a-t-il une nation qui change ses dieux? C'est exactement ce qu'on nous dit. Il faut changer. Y a-t-il une nation qui change ses dieux? Et mon peuple a changé sa gloire contre ce qui n'est d'aucun secours. Cieux, soyez étonnés de cela. Frémissez d'épouvante et d'horreur, dit l'Éternel. Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Et alors on voit dans tous les milieux, dans toutes les églises, on est en train de creuser des citernes. On veut de l'eau pour son église. Alors on creuse la citerne. Puis quand on creuse la citerne, comme le disait déjà Saint Jean de la Croix, on se fatigue. Première chose. Alors que, quand on va à Jésus, qu'est-ce qu'il nous dit? Venez à moi, je vous donnerai du repos. On se fatigue, et puis plus on descend, plus on va vers les ténèbres. Tandis que Jésus dit, je suis la lumière. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Et puis, en descendant plus au fond, on se souille parce que il y a de la boue. Alors que Jésus est notre sanctification. Et puis, quand on arrive tout au fond, ça ne retient pas l'eau, c'est la déception. Et les gens aujourd'hui sont déçus. Que de chrétiens sont déçus. Mais, c'est parce qu'ils ont abandonné le Seigneur qui est la source des eaux. Alors ils se fatiguent. Que de chrétiens qui nous disent qu'ils sont crevés. Il n'y a pas à être crevé quand on est chrétien. Ni crevé, ni gonflé. Souvenez-vous bien, n'est-ce pas? Mais on est dans le Seigneur, et il est notre force, et il nous renouvelle, jour après jour. Alors on marche de force en force. puis on apprend à vivre au jour le jour. Verset 14. Israël est-il un esclave acheté ou né dans la maison? Pourquoi donc devient-il une proie? Contre lui, les lionceaux rugissent, poussent leurs cris, et ils ravagent son pays, ses villes sont brûlées, il n'y a plus d'habitants, même les enfants de Nof et de Tapkanès se briseront le sommet de la tête. Cela ne t'arrive-t-il pas parce que tu as abandonné l'Éternel ton Dieu? Il n'y a pas d'autre explication. Nous ne sommes plus en contact direct avec le Seigneur. Lorsqu'il te dirigeait dans la bonne voie. Et maintenant, qu'as-tu à faire d'aller en Égypte? On est tout prêt. Maintenant, on va à Toronto. Et maintenant, qu'as-tu à faire d'aller en Égypte pour boire l'eau du Nil? Qu'as-tu à faire d'aller en Assyrie pour boire l'eau du fleuve? Ta méchanceté te châtiera et ton infidélité te punira. Tu sauras et tu verras que c'est une chose mauvaise et amère, quoi, d'abandonner l'Éternel. C'est clairement dit, on a abandonné l'Éternel, ton Dieu, et de n'avoir de moi aucune crainte, dit l'Éternel. Le Seigneur des âmes, on n'a plus aucune crainte. Quand on dit, on ose dire, Dieu a mis dans nos cœurs l'adultère. Donc il est impossible qu'un homme reste fidèle à sa femme, et il est impossible qu'une femme reste fidèle à son mari. Parce que c'est Dieu qui a mis l'adultère dans nos cœurs. C'est terrible. Prostituée. Je t'avais planté comme une vigne excellente. Et du meilleur plan. Comment as-tu changé, dégénéré, en une vigne étrangère? Quand tu te laverais avec du nitre, quand tu emploierais beaucoup de potasse, ton iniquité resterait marquée devant moi, dit le Seigneur l'Éternel. Comment dirais-tu, je ne me suis point souillé, je ne suis point allé après les Baals? On me dit, mais il n'y a pas de péché à cela, tout le monde le sait. Et c'est une grande église. Regarde tes pas dans la vallée, dromadaire, à la course légère et vagabonde, ânesse sauvage, habituée au désert, haletante dans l'ardeur de sa passion. Qui l'empêchera de satisfaire son désir? Tous ceux qui la cherchent n'ont pas à se fatiguer, ils la trouvent pendant son mois. Ne t'expose pas à avoir les pieds nus, ne dessèche pas ton gosier, mais tu dis, c'est en vain, non, car j'aime les dieux étrangers et je veux aller après. L'autre jour, une maman me disait que sa fille avait dit, mais maintenant, moi, je veux faire ma vie. Ça n'a que 16 ans. Il y en a qui le disent déjà à 13 ans. On était à quel verset? 25. Verset 26. Comme un voleur est confus lorsqu'il est surpris, ainsi seront confus ceux de la maison d'Israël, eux, leur roi, leur chef, leur sacrificateur, leur prophète. Ils disent au bois, tu es mon père. Et c'est très drôle, hein, quand vous parlez à certaines personnes, qu'ils vous disent, ils vous donnent des nouvelles de des tiens, tout ça, ils disent tous, oh, touchons du bois. C'est partout que ça se fait. J'étais dans une banque en Suisse, et le directeur, il me donnait des nouvelles, on était assez liés, assez amis, je lui ai annoncé les banques, mais il fallait qu'il pousse du bois. Il est dans le bois maintenant, dans un cercueil. Ils disent au bois, tu es mon père, à la pierre, tu m'as donné la vie. Car ils me tournent le dos, ils ne me regardent pas. Et quand ils sont dans le malheur, ils disent, lève-toi, sauve-nous. Voyez alors, tout de suite une réunion de prière. Où sont donc tes dieux que tu t'es fait, qu'ils se lèvent, qu'ils peuvent te sauver autant du malheur. Car tu as autant de Dieu que tu as de ville au Juda. Et c'est tellement vrai. Quand on entend le langage des gens, j'adore, j'adore, j'adore. Oh, j'adore ceci, oh, j'adore cela. Pourquoi contesteriez-vous avec moi? Vous m'avez tous été infidèles, dit l'Éternel. En vain ai-je frappé vos enfants, ils n'ont point eu égard à la correction. Votre glaive a dévoré vos prophètes comme un lion destructeur. Hommes de cette génération, écoutez bien, considérez la parole de l'Éternel. Ai-je été pour Israël un désert ou un pays d'épaisse ténèbres? Pourquoi mon peuple, dit-il, nous sommes libres? Nous ne voulons pas retourner à toi. Et vous avez ce verset 32. La jeune fille oublie-t-elle ses ornements? D'ailleurs, il est dit la fiancée. La fiancée, sa ceinture. Mon peuple m'a oublié depuis des jours sans nom. Et voilà, on a détaché la ceinture. Et c'est avec le dernier exemple que vous avez au chapitre 13 que nous terminons cette rencontre matinale. Pour que vous repreniez la lecture de la parole, parce que quand on en est imprégné, elle agit. Chapitre 13 de Jérémie. « Ainsi m'a parlé l'Éternel. Va, achète-toi une ceinture de lin et mets-la, à quelle place? Sur tes reins. Mais ne la trempe pas dans l'eau. J'achetai la ceinture, selon la parole de l'Éternel, je la mis sur mes reins. La parole de l'Éternel me fut adressée une seconde fois en ces mots. Prends la ceinture que tu as achetée, qui est sur tes reins, lève-toi, va vers l'Euphrate, et cache-la dans la fente d'un rocher. J'allais, je la cachai près de l'Euphrate, comme l'Éternel me l'avait ordonné. Plusieurs jours après, l'Éternel me dit, lève-toi, va vers l'Euphrate, et là, prends la ceinture que je t'avais ordonné d'y cacher. J'allais vers l'Euphrate, je fouillais, je pris la ceinture dans le lieu où je l'avais cachée. Mais voici ce qui est arrivé à la ceinture. La ceinture était gâtée, elle n'était plus bonne à rien. Si vous n'avez pas l'amour, vous n'êtes rien. Une ceinture autour de ses reins, c'est quelle ceinture? Éphésiens, chapitre 6. C'est la ceinture de la vérité. Et cette ceinture de la vérité, elle doit être autour de nos reins. Tant qu'elle est autour de nos reins, ça va. Hein. Elle est utile. Mais si vous enlevez la ceinture, et que, oh, vous l'avez pas tout à fait abandonnée, vous savez où elle est. Vous l'avez bien cachée. Mais vous l'avez enlevée, et vous voulez la reprendre, qu'est-ce qui arrive? Elle est gâtée. Si la vérité n'est pas mise en pratique, elle ne sert plus à rien. Et nous arrivons dans ces temps où, n'ayant pas eu l'amour de la vérité pour être sauvés, tous ces gens dits chrétiens, qu'est-ce qu'ils vont croire? Ils croiront au mensonge. Une puissance d'erreur viendra sur eux. Ils n'ont pas la ceinture de la vérité autour de leurs reins. Alors, ils seront séduits. Et c'est pourquoi nous avons eu tellement à cœur de prendre ce sujet qui va se développer, mais nous voudrions que vous soyez bien convaincus que ce n'est pas notre imagination, mais c'est la parole de Dieu qui va nous inspirer. Vous avez pu noter ce récit pour pouvoir le relire. La ceinture, chapitre 13 de Jérémie. Elle doit être autour de nos reins. Nous devons vivre l'enseignement du Christ. Qu'est-ce qu'il a dit Jésus? Qu'est-ce qu'il était? Je suis la vérité. Pas le Jésus de notre imagination, pas le Jésus des temps modernes. Mais Jésus, Fils unique et éternel de Dieu, qui est dans le sein du Père et qui veut nous faire connaître cet amour qui se trouve dans le sein du Père, pour qu'ayant cet amour nouveau en nous, qui est vraiment le premier amour, nous puissions dans cette fin des temps être à la louange de la gloire de sa grâce. Dieu notre Père, nous te bénissons pour cette rencontre et nous te demandons que par ton esprit, tu fasses ton œuvre en nous et que nous puissions apprendre à te connaître. Toi, notre divin fiancé, et que tu captives tellement nos cœurs et nos affections, que nous puissions nous attendre à toi pour toutes choses, car toute la plénitude de la divinité, elle est en toi. Et si nous t'avons, nous avons cette plénitude. Donne-nous de savoir nous débarrasser de tout ce qui t'empêche de prendre toute la place dans nos cœurs et de nous donner toutes les possibilités que tu voudrais faire passer en nous pour que nous devenions réellement les membres vivants de ton corps, guidés par la tête et non pas par l'inspiration que donne le monde. Que notre inspiration vienne d'en haut. Tu es au-dessus de toute principauté, de toute dignité, de tout nom qui se nomme, et que nous puissions, conduits par toi, te voir comme ce fut le cas pour Israël, délivrer ton peuple chaque fois qu'il revient à toi. Nous voulons revenir à toi et te demander que d'ici ce soir, nous sachions te confesser ce que tu nous auras montré qui a peut-être été un obstacle à cette pleine bénédiction que nous n'avons pas à chercher dans une autre ville, mais que nous pouvons trouver dans ce camp, non pas parce que nous y sommes, mais parce que tu es là. Là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis là, au milieu, qu'il en soit ainsi. Amen. Une marche qui honore et qui glorifie le Seigneur. Les chaussures, elles sont employées pour marcher. Et il est dit que Israël, pendant toute la traversée du désert, leurs chaussures ne se sont pas usées. N'est-ce pas? Le Seigneur prend soin de tout, de nos chaussures, parce que ce sont les armes de Dieu. Alors, c'est les chaussures à nos pieds, c'est marcher comme Jésus a marché. Celui qui dit demeurer en moi doit lui-même marcher comme lui a marché. Il ne nous demande pas d'aller à droite et à gauche, il nous demande d'accomplir sa pensée quotidiennement. Il ne nous demande pas de vouloir absolument parler à tout le monde, mais d'être disponible pour parler à qui il veut nous parler. Parce que bien souvent, nous irritons les gens. Parce que nous présentons Jésus comme une propagande. Jésus, dernière chance. Mais vous rabaissez Jésus. C'est pas une chance, Jésus. Jésus n'est pas une chance. Et si vous voulez attirer du monde et puis que vous voulez être moderne, ben oui, c'est Jésus dernière chance, ou la meilleure des drogues pour faire un trip, pour faire le grand voyage. Vous voyez, on s'inspire. C'est plein de télévision dans la tête des gens et des chrétiens. Puis on vous dit, touchez la télévision pendant que je prie, puis vous allez avoir le contact. Bande d'imbéciles. Voilà ce que nous sommes devenus, avec toutes nos inventions. Qu'on croit cela. Alors que le Seigneur nous demande d'obéir.